Bien. Est-ce que vous avez commencé à mettre en application les enseignements?
Oui.
Oui. Qui dit oui?
Moi.
Alain, vas-y Alain. Est-ce que tu as réussi à mettre le cœur à cœur en action?
Ah, oui. Ah, oui.
Et est-ce que tu peux dire qu'il y a eu du changement?
Il y a eu du changement et puis en même temps aussi j'ai appris des choses du cœur de ma femme.
Amen. Ouais.
Mais c'est vrai que ce cœur à cœur a changé pas mal de choses.
Amen.
Et je pense que ce cœur à cœur, il ne va pas s'arrêter une fois.
Allez, et c'est le but du jeu.
Ouais. Non, mais
Et ça s'est bien passé alors?
Très bien passé.
Vous n'êtes pas tombé dans le piège de vous reprocher des choses qui durent depuis des années? Il n'y avait pas trop de poussière sur le tapis? Est-ce que vous allez être un peu plus loin en essayant de voir des choses à mettre en place pour la suite ou alors ça sera pour une prochaine fois.
Voilà, on a parlé un peu, de penser à nous un peu plus,
ouais.
À tous les deux, à sortir, parce qu'on ne sort jamais.
Ouais.
Et donc, je voudrais passer plus de temps avec elle,
amen.
Pour aussi dire des choses comme ça, tu vois.
Ouais.
Mais ça a été vraiment enrichissant
Ça t'a bien travaillé.
Ouais.
Amen. 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 Il y en a d'autres qui ont essayé le cœur à cœur et qui ont eu du succès ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai oublié ton prénom. Je pense à Clément. Romain, est-ce que tu as eu le temps de faire du cœur à cœur?
On en a parlé, enfin, pas partiellement, on va dire.
Tu as pu le mettre en place ou pas?
On n'a pas défini encore
D'accord.
Le créneau.
Ouais. C'est compliqué à mettre en place. Hein? Quand vous êtes deux personnes actives, là, c'est faut le vouloir.
Ah oui, ça faut
le mettre en place.
C'est compliqué dans le sens où moi, par exemple, c'est savoir identifier quels sont les besoins aussi.
Mais déjà prendre du temps pour en parler, déjà. Il faut déjà arriver à poser un rendez-vous déjà.
Ouais.
Hein? Et comme je vous ai dit dans l'enseignement. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça. C'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un monde de fous, où c'est difficile de trouver du temps, même pour notre couple. C'est incroyable. Axel. Amen. Et vous avez réussi à faire du cœur à cœur?
On fait, comme tu dis maintenant, on fait tous les jours. C'est que des choses que je ne disais pas avant, les gens me disaient, quand elle va travailler, je le passe devant lui, et puis je lui envoie des petits mots, je travaille.
Amen.
Elles m'ont fait la même chose, et il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Amen. Bravo. Bon, tu vois, Romain, c'est encourageant. Hein?
Ah oui,
c'est... Faut le faire parce que, vous savez, le mariage, le couple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Mais les enseignements, ça ne suffit pas. Il faut les enseignements, mais après, s'il n'y a pas la mise en pratique, malheureusement, ça ne va pas servir à grand-chose. Hein? On se sera fait plaisir. Et puis, je vous assure que dans 3 semaines, 1 mois, on reprendra les mêmes habitudes. Donc, il faut vraiment prendre conscience. Et puis, il faut vraiment mettre les choses en place d'un côté, d'une façon pratique, quoi. Faut vraiment... Mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Si on applique les enseignements sur le mariage et le couple, votre couple va prendre encore une autre dimension. Même pour un couple qui va bien. On ne s'imagine pas dans quelle dimension on peut aller à s'aimer l'un et l'autre. Vraiment dans le sens de je me donne à toi et l'autre se donne à moi. C'est beaucoup plus que d'être dans une routine hein, de couple. Oui, ça se passe bien, on s'entend bien et tout ça. Mais prendre conscience que là, je suis là pour toi. Et l'autre, en même temps, dit moi, je suis là pour toi. Et qu'il y ait cet échange. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que on est dans la volonté de Dieu. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour aimer et être aimé. C'est notre ADN. Il a été déformé par le péché, mais à la base, on est sorti du cœur de Dieu. Dieu est amour. Et en fait, on est sorti du cœur de Dieu pour aimer et aussi être aimé. Si je le dis autrement, c'est donner et recevoir. D'accord ? Donner de l'amour et recevoir de l'amour. On a été fait pour ça. Et si jamais on ne rentre pas dans ce plan-là, ben, on passe à côté de quelque chose. Hein? Et c'est pas si évident que ça. Des fois, c'est des mécanismes de défense ou de survie hein, qu'on a mis en place. Et on peut avoir, entre guillemets, un cœur dur, un cœur difficile. C'est un cœur qui s'est habitué à trouver des façons de vivre sur cette terre, malgré les blessures, malgré les rejets, malgré tout ce qu'on peut rencontrer. Ben, cette personne-là, elle a réussi dans la méfiance, dans la peur d'être blessé, dans différents mécanismes, de ne pas se livrer. Parce qu'on a peur de reprendre des claques. Mais seulement, on n'a pas été fait pour ça. Et donc, malheureusement, oui, on peut survivre, mais on ne sera pas dans l'épanouissement. Hein. Et on ne rendra pas notre conjoint heureux si on garde nos mécanismes de défense avec notre conjoint. C'est-à-dire que sans se rendre compte, si notre façon d'être, ça a toujours été la même, et que quand on est dans le couple, on garde les mêmes façons, ben en fait, on va juste rendre notre compagnon malheureux, notre mari, notre femme malheureuse, et nous-mêmes, on ne sera pas heureux. Vous comprenez ? Donc, il y a quelque chose à casser. Hein, quelque chose à casser, là, c'est une déconstruction, on appelle ça, une déconstruction des mécanismes de défense pour, à nouveau, réapprendre à s'aimer. Ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise quand vous avez des années où, comme j'ai prêché mardi, on va le voir un petit peu ce soir, le cœur orphelin, que vous êtes habitué avec ce cœur orphelin, ce cœur à vivre seul en fait, hein, même si on a des parents, et que tout d'un coup, vous rentrez dans un cœur d'adoption où là, il y a un lâcher-prise qui se fait parce que pour rencontrer l'amour de Dieu et recevoir cet amour de Dieu, et qu'après il va être diffusé aux autres, eh ben, c'est tout un processus pour certaines personnes. Vous avez des gens, malheureusement, même des chrétiens, qui ont du mal à ressentir l'amour de Dieu, malgré qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont des mécanismes de défense, ils n'en sont même pas conscients. C'est des choses qui se sont bâties au fur et à mesure des années pour se protéger, parce que ben, dans leur famille, ils ont connu le rejet, et ils ont connu l'abandon, ils ont connu l'humiliation, et ils ont connu la trahison, et ils ont connu tout ça. Et malheureusement, le petit garçon ou la petite fille, il a fallu qu'elle apprenne à survivre. Hein. Et si ce petit garçon qui est au fond de nous, ou cette petite fille, n'est pas guérie, eh ben elle garde ses mécanismes de défense. C'est comme j'expliquais le petit mat hein, qu'on avait vu dans les dernières sessions, le petit mat, comment il réagit, le petit mat. C'est compliqué pour lui de déconstruire le fait qu'il n'a plus besoin d'aller chercher de la nourriture, qu'il a tout, il est dans le royaume, il a tout. Et pourtant, il continue à penser qu'il faut qu'il aille chercher de la nourriture. Vous voyez, c'est incompréhensible. On pourrait lui dire, mais Timat, arrête, c'est bon là. T'as vu là, t'as la famille que tu as là. Ils ont de l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Tu n'as plus besoin de courir après la nourriture. Et pourtant lui, eh ben, tous les jours, il essayait de mettre un petit peu de nourriture de côté, au cas où on le trahirait, au cas où il serait encore blessé, au cas où il serait encore déçu. Bon ben, il a des stocks de nourriture. Vous voyez, ça paraît un peu ridicule. Mais malheureusement, nous, si on ne fait pas attention, eh ben, on ne reçoit pas l'amour de Dieu parce qu'on est encore sur nos modes de fonctionnement. On est encore sur nos modes de fonctionnement. Dedans, vous allez y trouver de la méfiance, vous allez y trouver du contrôle, vous allez trouver toutes sortes de choses qui se sont mises en place et qu'on est à l'aise avec ça parce qu'on sait gérer ça, même si au final, ça ne nous rend pas heureux. Vous comprenez ? Donc il y a un lâcher-prise dans l'amour de Dieu. Pour rentrer dans les bras de Dieu, comme je vous expliquais tout à l'heure à Alain, notre papa, on vient, c'est le petit garçon qui vient, c'est la petite fille qui vient et qui vient se restaurer, qui vient dire Seigneur, je repars à zéro avec toi, je peux te faire confiance à 100%, tu n'es pas le papa défaillant que j'ai eu ou le papa terrestre qui n'est pas Dieu, hein, ou la maman que j'ai eu qui m'a déçu, ou je ne sais pas quelle déception il y a eu, mais en fait, voilà, c'est un réapprentissage. Et c'est dans le cadre de l'amour du couple qu'on va vraiment aussi voir la transformation. Hein. C'est là où un cœur dur qui lâche, un cœur dur qui réapprend à faire confiance à l'autre, et sinon, je ne vois pas pourquoi on se marie, mais si on se marie, c'est parce qu'on fait confiance à l'autre, mais c'est là où on apprend à vous allez voir, je vais prononcer un mot, et certains, ça va peut-être leur faire peur, c'est là où on réapprend à se rendre vulnérable. C'est un mot qu'on a un peu peur, hein, vulnérable. Ouais, mais vulnérable, ouais, si je prends des claques, non, fais confiance. Le Seigneur, ton mari t'aime, tu es chrétienne, il est chrétien, on réapprend à s'aimer. On n'est pas dans le monde là où tu vas prendre des coups. Hein, si on peut faire en sorte qu'à la maison, quand on arrive à la maison, on peut déposer nos armes, on peut être dans cet havre de paix, on peut être dans ce cocon d'amour qu'on fabrique nous, qu'on se fabrique avec le Seigneur et qu'on dit, ouais, je suis chez moi, je peux souffler, je n'ai pas besoin là d'être encore avec les mêmes mécanismes que toute la journée. Il faut être bonne, il faut être perfectionniste, il faut que je sois bon, il faut pas que je me trompe, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça. Ah, si j'arrive à la maison, et je continue, il n'y a pas de repos. Un moment, tu dis, je suis fatigué. Ah bah oui, tu dis, tu dois être fatigué. Tu arrives à la maison, dépose ton armure. Tout va bien. Tout va bien. Amen.
Amen.
Hein? Vas-y. Amen. Amen, amen, amen. Il y a ce verset où on se rend compte que c'est l'un ou l'autre. Hein. L'amour bannit la peur. Donc soit on a des relations qui sont basées sur la peur, mais ce n'est pas des relations qui sont basées sur l'amour. On ne peut pas avoir les deux, puisque l'un bannit l'autre. Donc soit on décide dans notre famille, dans notre couple, avec nos enfants, d'avoir des relations d'amour, c'est-à-dire où on peut tout se dire. On n'a pas peur. La base, ce n'est pas la peur. Comment il va réagir? Comment il va prendre ça? Oh, il va encore s'énerver. Oh, il va encore... Non, ça, on n'est pas sur un bon schéma. Hein? On doit... Chérie, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux... Oui, tu peux tout me dire. Je t'écoute. Hein? On va voir ce soir. Je vais essayer de l'amener d'une façon très pratique pour que ça vous percute, pour que vous compreniez que le couple, c'est vraiment du concret. C'est vraiment mettre l'évangile en action. Hein, on n'est pas dans la théorie. Quand la semaine dernière je vous parlais du linge, ça faisait sourire, mais c'est du pratique, hein, c'est du concret. Après le linge, vous pouvez le remplacer par autre chose, mais c'est là où on est transformé, et on va le voir ce soir. On est différent si on n'apprend pas à connaître l'autre, connaître, le verbe connaître, ginosko, vraiment avoir cette relation forte, hein, avec l'autre, et où on se met un peu à sa place, où on essaye de le comprendre. Et je vous assure que pour moi, c'était le linge, c'était une révolution. Parce que moi, je ne me suis pas occupé du linge, moi, étant petit. Jamais. Je ne pensais pas que le linge était aussi important. Mais c'est quand j'ai vu l'importance que le linge avait aux yeux d'Erlande, c'est ça qui m'a fait changer, en fait. J'ai dit, mais il doit y avoir un truc. que franchement, elle met tellement d'énergie avec son âge, je dis, c'est pas possible. Tu sais, il y a un truc que je comprends pas. Donc, ça a été une démarche d'apprentissage, comme on a vu la semaine dernière, les langages de l'amour, où on apprend à découvrir l'autre. Donc, le linge, qu'est-ce qu'il a de spécial, le linge? Donc, j'ai été le sentir, et c'est vrai, quand il avait plu, il sentait mauvais. Je dis, ah, c'est vrai, il a pas tort. J'avais pas pensé que le linge pouvait sentir mauvais, tu vois. J'ai dit, non, il est propre, il sort du lavage. Mais non, quand il y a la pu qui est dessus, et après que ça sèche, il pue. Bon, je savais pas. Et après, donc, quand j'ai compris ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je rentrais plus tôt qu'Irlande. Donc, et à cette époque-là, il n'y avait pas d'abri pour le linge. Donc, le linge était sur les fils dehors. Et quand j'arrivais, je me suis surpris moi-même. J'ai dit, Seigneur, extraordinaire. Je regardais par la fenêtre. Je dis, oh, elle a étendu du linge. Je vais aller voir s'il est sec. Allez, je vais aller voir s'il était sec. Tu vois? Puis là, je touchais. Je dis, oh, il est sec. C'est bon. Et hop, je le plie. Enfin, je l'amenais dans le panier. Tu sais, top, j'ai appris tout ça. Clac, 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 clac. Hop, je le ramenais. Puis je disais rien. Je disais rien. Puis elle allait arriver et c'était comme ça à chaque fois. Elle disait, oh, mon linge. Oh, oh, chérie, tu as ramassé mon linge. Oh, oh, quel mari extraordinaire. Mais ouais, mais là, vous me dites, mais là, j'ai touché le bonbon. Là, j'ai dit, le linge, c'est extraordinaire. Donc, ça, tu comprends, tu fais des trucs comme ça et l'autre est content. T'as presque rien fait, ça t'a pris 5 minutes. Et puis t'as fait top, top, top. Ben alors, quelle puissance. Donc, tu comprends qu'il y a des choses, ben, ça ne t'appartient pas, c'est l'autre, c'est le domaine de l'autre. Mais en rentrant dans son truc à l'autre, ben, tu te dis, waouh, on se complète, tu vois, on fait des choses ensemble. Tu vois. Et du coup, elle aussi, elle a fait des trucs qui étaient plus dans mon domaine. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un couple, ça se construit, un couple, ça se rencontre, tu vois. Et que moi, j'aurais jamais fait ça avec quelqu'un d'autre, peut-être, tu vois. C'est vraiment unique. Parce que tu t'adaptes à l'autre. Et c'est ça, c'est en ça que ton couple, il est unique. Et si on peut se dire, waouh, dans ce monde de brut, dans ce monde difficile, si on peut avoir un endroit où on est bien, où c'est différent, où on peut se parler gentiment, où on peut s'aimer, où on peut se respecter, où on peut rendre l'autre heureux. Et franchement, hein, ça vaut pas le coup? Quand on voit tous les couples qui se déchirent, quand on voit que c'est la guerre, on se dit, mais franchement, il y a un problème. On n'a pas été fait pour ça. Donc c'est la guerre partout. C'est la guerre dehors, c'est la guerre à l'intérieur, c'est la guerre dans notre cœur, c'est la guerre partout. Mais on, il finit plus. Non, on est appelé, comme je dis, à n'importe quel âge que tu as, si le Seigneur te prête vie, s'il te reste 10 ans, ben que ça soit les 10 plus belles années. Parce que tu ne savais pas avant. Mais maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais que tu peux donner le meilleur de toi-même pour l'autre et l'autre va donner le meilleur de toi-même pour toi. Elle est là, la clé. Elle est là.
Amen.
Ah, pas beaucoup, hein. Amen. 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 Allez, on continue. Donc ce soir, on va voir quelque chose de fondamental, évidemment, parce que le cœur à cœur, c'est bien. Hein. Mais encore faut-il savoir parler. Encore faut-il savoir communiquer. C'est vrai que le plus gros problème des couples, c'est la communication. Et on va voir ce soir, on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Et j'aimerais que ce soir, vous rentriez dedans et que vous... Il y a des lumières qui s'allument pour dire, waouh, j'avais pas vu ça comme ça. Amen. Le défi de la communication est de l'écoute dans le couple. Très important, l'écoute. Les caractéristiques d'une bonne communication. Vous allez entendre des mots ce soir que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Les caractéristiques d'une bonne communication. Deux choses. La patience et la douceur. La patience et la douceur. Jésus était... Vas-y. Bravo. Jésus. C'est incroyable comment la Bible emploie le premier mot qu'elle attribue à Jésus. Jésus était doux et humble de cœur. Et Seigneur, si on pouvait dire ça de moi, extraordinaire. Clément, tu es doux et humble de cœur. Vous savez le gros problème qu'on a, c'est qu'on associe douceur à faiblesse. C'est un grave problème. Parce que je vous assure que la douceur, c'est loin d'être de la faiblesse. La douceur, c'est une maîtrise de soi. être doux, c'est une maîtrise de soi. Et moi, je dis toujours, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que la main de fer, c'est ta personnalité. Tu peux être fort, tu peux être bien stable dans tes croyances, dans ce que tu crois. Donc, personne ne te fera changer d'avis pour un oui, pour un non. Par contre, le gant de velours, c'est la manière dont tu vas parler, la manière dont tu vas annoncer les choses, tu vois. Et c'est deux choses différentes. Et c'est pas parce que j'apporte les choses d'une manière douce ou que je parle doucement que je me sens faible ou que la personne va réussir à me convaincre. Si elle me connaissait, elle saurait qu'elle aura du boulot. Mais par contre, voilà, j'ai appris la douceur. Mais merci Seigneur, parce que la douceur, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit, la douceur. Mais qu'est-ce que ça change la vie? Heureux les doux, car... Non, car... Ils hériteront de la terre. Heureux les doux. C'est incroyable. Jésus vient sur cette terre et la troisième phrase, il parle de douceur. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Et vous savez, la terre à l'époque, dans ces pays-là, c'était la seule richesse. C'est fou, hein? Le rapport entre avoir les richesses et être doux. Tu vois? Donc, tu peux mettre la réussite, tu peux mettre... Ça représente quoi? La terre, ça représente tout ce qui est prospérité, tout ce qui est bénédiction. Et heureux les doux. Donc, il y a une chose qu'il nous faut travailler, c'est cette relation avec Dieu, hein, comme je disais cette semaine encore, ginosko. L'important, Seigneur, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Connaissent. Ginosko. Le même nom, le même mot en hébreu pour Adam connu sa femme. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que, vous voyez, la différence entre nous dans une relation avec Dieu et une religion, la différence, c'est ginosko. La différence, c'est ce que nous, on va développer comme relation avec Dieu. Plus on va développer une relation intime avec Dieu, ce cœur de père, comme on va le voir un petit peu tout à l'heure, ce cœur de père où on fait confiance et on vient se blottir dans les mains, dans les bras de Dieu, parce qu'on sait qu'on est en confiance, on sait qu'on peut lui faire confiance. Développer cet endroit, développer ce lieu-là, eh ben, c'est là où le fruit de l'esprit va se manifester en nous. C'est là où ça va porter du fruit. Parce que c'est une communion avec Dieu qui nous permet d'exercer le fruit de l'esprit. C'est pas nous. Hein. On prend toujours l'image d'un arbre fruitier. Hein. C'est l'arbre qui donne le fruit. Mais nous sommes la branche. Nous sommes le cep. Il est le sarment. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Eh bien, jamais. Le manguier, avec sa branche, il va forcer pour avoir la mangue. Il dit pas, oh, attends, bouge pas, c'est dur, ça va arriver, elle arrive, ne bouge pas. C'est le fruit, c'est toute la sève qui coule dans le cep et qui produit le fruit. Et nous, c'est en communion avec Dieu, en étant branchés à sa source, que le fruit va être porté par le Seigneur en nous. Faut comprendre ça, hein, parce que beaucoup de gens, ils s'imaginent qu'il faut que je sois patient, oh, il faut que je sois patient, c'est comme si c'était quelque chose à attraper, puis tu sais que je dois faire les efforts. Tu as vu ce qui va se passer? Tu vas faire les efforts pendant quelques temps, puis tout d'un coup, tu auras tellement mis d'énergie à faire les efforts qu'à un moment, tu vas rater ton truc, bah, ça va partir en live. Et tout ce que tu auras contenu pendant 2 semaines, 3 semaines, ça va exploser. Et tu vas dire, oh pardon, c'est bien. C'est parce que tu auras fait par tes propres forces. Tu vois, on a rien à faire sinon d'être en communion avec ta mère. C'est comme ça. Tu es en communion avec lui, ginosko. Tu es dans ses bras d'amour, tu es branché à la source. Il te transmet ce fruit de l'esprit. C'est extraordinaire. Et ça, ça porte du fruit. C'est le cas de le dire, comme dit la Bible. Et là, vous porterez du fruit. Tu vois ? On porte le fruit, nous. C'est pas nous qui faisons le fruit. On le porte. Tu vois ? Et on en bénéficie. Parce que dans le fruit de l'esprit, il y a la guérison. Il y a l'amour, avant toute chose. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc il y a déjà là la guérison, plus tout ce qu'on a besoin sur cette terre pour être en paix. Tu vois ? La paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bénignité. Tout ce que tu as besoin pour vivre dans des relations apaisées, tu l'as dans le fruit de l'esprit. Amen. Et dans cette relation avec Dieu, il te communique ça. Et toi, si tu lâches prise et que tu prends un peu de temps pour être vraiment dans cette relation, on n'est pas des religieux, on n'est pas des pharisiens. On est un petit garçon, on est une petite fille qui venons nous blottir dans les bras de son papa et on se laisse prendre par les bras de son papa. Waouh! Et là, tu me dis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire ma Bible. J'ai pas le temps de faire ci. J'ai pas le temps de faire ça. Et on parle pas de la même chose. Je te parle de prendre 5 minutes. Viens te blottir dans les bras de ton papa. Tu vas voir l'amour que tu vas recevoir.
Amen.
Amen. C'est tellement beau. Donc, patience et douceur sont les clés d'une bonne communication. Jacques 1, 9, 19, la Bible, elle en parle. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Prompt à écouter. Pas prompt à parler. Prompt à écouter. Lent à parler. Lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On a besoin de ce fruit de l'esprit. On a besoin d'être rempli de l'amour de Dieu pour pouvoir ne pas s'emballer, ne pas s'énerver, pour pouvoir rester calme. Parce que tu as tout, toi. Tu es en paix avec ton papa. Et comme je disais à Alain tout à l'heure, dès que tu te sens irritable, dès que tu te sens agressif, dès que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta life, là, tu n'es pas content. C'est que tu n'es pas à la bonne place. Tu n'es pas à la bonne place. Tu es dans un endroit tout seul. Viens dans les bras de ton papa. Viens à l'instant même. Les bras sont ouverts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Viens au lieu où tu dois être, l'enfant adopté, l'enfant qui a été choisi par son papa. Tu viens là et tu dis, Seigneur, je viens prendre ton amour parce que là, regarde comment je suis énervé. Regarde comment je suis agressif. Regarde comment je m'énerve pour un oui, pour un non. Tu vois, c'est cet endroit-là qui est disponible à chaque instant de ta vie. Et c'est comme ça que tu pourras être prompt à écouter. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Tu n'as pas besoin de justifier. Tu n'as pas besoin de dire, attends, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Non, non. Sois rempli de paix, sois guéri. La petite fille qui est au fond de toi, mais qu'elle soit guérie. Le petit garçon qui est au fond de toi, mais qu'il soit guéri. Il n'y a pas besoin de s'énerver pour ça.
Ce verset-là, c'est la base.
Ah oui, bien sûr. En fait, ce verset-là, il permet une bonne communication. Tu vois ? Mais ce n'est pas notre nature. Ce qu'il faut comprendre. Hein, c'est que, je vous en ai déjà parlé une fois, les moyennes qui ont été établies quand quelqu'un est avec une autre personne, que la personne commence à parler, il faut qu'elle se dépêche parce qu'elle n'a que 17 secondes devant elle avant que l'autre lui coupe la parole. Ça, c'est la moyenne. Donc, l'homme, à cause du péché, il a été dénaturé et l'homme est prompt à parler. Puis des fois, tu n'écoutes même pas l'autre, tu es tellement prompt à parler que tu dis, dès qu'il y a un petit creux, j'en profite. C'est dès qu'il relâche un peu, hop, je prends la parole. Ou alors, s'il m'énerve trop, je coupe la parole carrément. Donc, cette patience, tu vois, de laisser l'autre parler. Et si tu n'es pas dans cet état-là, tu as un travail à faire avec ton cœur. C'est que ton cœur n'est pas à la bonne place. Quand tu es avec ton papa, je ne vais pas reprêcher ce que j'ai prêché mardi, mais je prêcherai tout le temps ce que j'ai prêché mardi, je prêcherai tout le temps. Quand tu es avec ton papa là, tu es à la bonne place. Tu ne peux pas être énervé. comme je te disais tout à l'heure, c'est l'endroit de l'amour. Tu peux pas être agressif, tu peux pas être en colère, tu peux pas t'énerver. Ça marche pas. C'est incompatible. Tu peux pas être dans les bras de ton papa rempli d'amour et dire « Papa, je suis énervé là, tu vois, je suis agressif. » C'est impossible. Tu peux venir avec cet état-là, hein, mais tu peux pas rester avec cet état-là. Il n'y a pas la place pour un cœur comme ça, dans les bras du papa. Tu vois. Donc, la Bible, elle te dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans Proverbes 15, 1, il est écrit, encore une fois, une réponse douce, calme la fureur. Douce. Hein? Quand quelqu'un vient vers toi et qu'il est énervé, si tu lui réponds au même niveau d'énervement, tu embrases les choses. Tu vois, la Bible, elle est claire aussi là-dessus. Une réponse douce calme la fureur. Tu n'as pas besoin de s'énerver. Pourquoi on s'énerve? Ça ne change rien. On peut se parler calmement. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on n'est pas obligé de s'énerver non plus. Mais une parole dure excite la colère. Et dans Proverbe 15, 4, la langue douce est un arbre de vie. Vous voyez que la parole de Dieu, elle n'a rien à dire sur la douceur, sur la façon de communiquer, sur la façon de se parler. Et pourtant, on est tellement loin de ça. Hein? J'observe les gens dans les magasins, quand on fait la queue, tout ça, je regarde. Mais quelle agressivité! Quelle agressivité! Comment on parle? Comment on se parle mal? L'homme et la femme et l'homme, la femme avec les enfants, c'est... Des fois, on est à un niveau où j'appelle même pas ça se parler. J'appelle ça aboyer. T'as sûr? On s'aboie dessus. Reste là, toi! Viens ici, là! C'est violent. C'est violent. Et des fois, dans le couple, c'est pareil. C'est violent. On n'arrive pas à se parler doucement. Donc c'est les bases de la communication. Et pour ça, on va reparler de ce que je viens de dire. Pour ça, il nous faut absolument guérir ce cœur orphelin pour rentrer dans ce cœur de Dieu qui va nous permettre justement d'avoir cet équilibre, qui va nous permettre de rester en paix, de vivre cette paix vraiment. Vous voyez ? Quand Jésus, il le sait qu'on a un cœur orphelin. Parce que on a été privé de Dieu dès la naissance. Et donc, on est né orphelin, même si on avait papa, maman. Mais on est quand même né orphelin, parce qu'il nous manquait cette communion avec Dieu. C'est de Dieu que vient tout cet équilibre, toute cette patience, cette douceur, cet amour. Tout ça, ça vient de Dieu. Et on ne l'avait pas. On ne l'a pas eu. La seule chose qu'on a eue, c'est des parents. Et merci pour les parents qu'on a eus. Et il a fallu faire avec. D'accord ? Mais Jésus est venu dans ce monde-là et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Avec moi, vous ne serez pas orphelin. Et dans Isaïe 61, c'était déjà prévu dans l'Ancien Testament, qu'on va retrouver après dans Luc, quand ils vont dérouler le rouleau, c'était déjà ça. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Isaïe parlait de Jésus et il disait, Jésus va venir pour vous qui avez ce cœur brisé, qui avez ce cœur orphelin. Il va venir dans ce monde-là et il va vous guérir. Tu vois ? Et aujourd'hui, et parce qu'on savait déjà, c'était comme ça. Chacun vivait comme il pouvait, mais chacun avait le droit à ses blessures. Chacun avait le droit d'être blessé dans la vie. Il n'y avait pas d'immunité. Chacun recevait des coups d'une manière ou d'une autre. Et donc, Jésus est venu pour les cœurs brisés. Et nous étions des cœurs brisés. C'est ça la réalité. Nous étions des cœurs brisés. Et notre manière d'agir, notre manière de fonctionner vient de ce cœur brisé. Jésus vient dans ce monde et il dit, c'est fini, tu n'es plus orphelin. Maintenant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu ne seras plus jamais orphelin, orpheline. C'est fini, je suis avec toi. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est quand on a un papa parfait. Et c'est dans ses bras d'amour que va se refaire la construction. Va se refaire la restauration. va se refaire à nouveau la capacité de refaire confiance à quelqu'un d'autre, autre que nous. Le cœur orphelin, c'est le cœur qui ne s'abandonne pas, qui ne compte que sur lui. Il a été blessé et inconsciemment, il a compris que s'il voulait s'en sortir sur cette terre, il fallait qu'il compte sur lui. Il ne fallait pas qu'il compte sur les autres. Ne rien devoir à personne. Marcher, réussir sur ses talents, sur ses propres réussites. Là, je ne serai pas déçu. Parce que je compte sur moi. Vous voyez ? Sauf qu'on n'a pas été prévu pour ça. Ça, c'est la solitude. Ça, c'est le cœur enfermé. C'est le cœur méchant. Qui s'est durci. Tu vois ? Et qui s'est fabriqué des barricades. Et son cœur s'est asséché. Son cœur est devenu dur. Aujourd'hui, lui, il veut réussir par ses propres moyens. Et il travaille. Il fait ce pourquoi il a cru qu'il était fait sur cette terre. Et ce qui ne donne pas de sens à sa vie. Et surtout, il est embêté. Parce que tout ce qu'il a construit, les murs qu'il a construits autour de lui, ça empêche de donner l'amour et ça empêche de recevoir l'amour. Il a fait des murs. Il faut briser ces murs-là. Et pour briser ces murs-là, il faut se rendre vulnérable. Et oui. Et c'est en se rendant vulnérable qu'on va pouvoir rendre l'autre heureux. Du cœur à cœur, tout à fait. Et rendre l'autre heureux. Rendre ses enfants heureux. Parce qu'on ne peut pas rendre ses enfants heureux avec un cœur comme ça. Avec un cœur comme ça, on ne fait juste reproduire ce dont on a été victime et qu'on a dit, moi, jamais ça. Et on finit par le faire parce qu'on a mis les mêmes mécanismes en place. Et les mêmes mécanismes en place donnent les mêmes résultats. Un cœur dur, un cœur jaloux, un cœur envieux et un cœur qui n'apprécie pas ce qu'il a. Le cœur rebelle versus le cœur d'adoption. Le cœur orphelin, c'est un cœur rebelle. Le cœur orphelin produit de la rébellion. Continue à vivre avec ses mécanismes de protection. Il est susceptible et il prend facilement l'offense. Vous voyez ? Quand vous prenez conscience de tout ça, vous dites « la communication va être difficile ». Oui, parce que tout va être sujet à susceptibilité. Tout va être sujet à prendre l'offense, à mal interpréter les choses. Et donc la communication, elle va vite tourner, comme on dirait, en autre boudin. Parce que je prends mal les choses. Parce que je prends ça comme une attaque. Parce que je prends ça comme un reproche. Et donc, on aura du mal, si on n'est pas guéri à ce niveau-là, de faire du cœur à cœur. Parce que dans le cœur à cœur, on se dit les choses. Et on n'est pas parfait. Mais si on prend les choses qu'on se dit de nos imperfections comme des attaques, comme des reproches, alors ça va devenir insupportable. Il faut qu'on soit capable, et c'est pour ça que la douceur est importante. C'est pour ça de dire, par exemple, pour Fabienne, va dire, Alain, est-ce que je peux te dire quelque chose avec gentillesse ? Alain peut dire, oui, je t'écoute. Ben voilà ce que j'attendrai de toi. Voilà ce que je peux faire de toi. Ça paraît pas ? Là, si vous l'entourez de douceur et vous l'entourez d'amour, il ne va pas être blessé. Il va le comprendre. Mais si vous le faites d'un ton agressif, d'un ton de reproche, il va se braquer. Pourquoi ? Parce que le cœur orphelin va ressurgir. Et il a ses mécanismes de défense. Tu m'attaques ? Attends, ça je connais. Là je suis sur mon terrain. Hein, on y va. Comprenez ? C'est facile ça. C'est un terrain qu'on connaît. Le terrain de l'amour est beaucoup plus difficile. Et le terrain de se rendre coup pour coup, ou agression pour agression, ou attention, là d'accord, tu me reproches ça, mais toi, tu crois que t'es pas mieux ? Tu vois ? Ce terrain-là, il est facile. Ce terrain-là, c'est un terrain qu'on connaît. Et le terrain de savoir se parler avec douceur, sans que ça soit des reproches, il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à trouver ce chemin-là. C'est pour ça que Jésus nous parle d'une porte étroite, un chemin rocailleux, difficile. Le chemin d'amour, il est plus complexe. Tu vois. Et on a besoin de réaliser qu'on est dans ce cœur d'adoption. Si on veut que notre couple profite pleinement de notre communication. Le cœur adopté produit la soumission. Il bat au rythme du cœur de Dieu. Il est plein de maîtrise de soi. Quand on est en ginosko, quand on est en communion avec Dieu, quand on est ensemble, on est dans son cœur, on est dans ses bras d'amour. Notre cœur bat à son rythme, on bat au même cœur. Vous voyez un petit peu comment on bénéficie de cet amour-là ? C'est parce que je ne suis pas orphelin, je ne suis pas orpheline, je ne suis pas en dehors des bras de Dieu. Je suis dans les bras de Dieu. Amen. Il manifeste la patience. Il s'exprime avec douceur parce qu'il est rempli d'amour. Vous voyez ? Vous pourriez dire, mais Bertrand, mais ce que tu nous racontes avec la communication, c'est quoi le problème ? Ben non, tout est là. Parce que de ça va découler la vraie communication. Communiquer, on peut tous communiquer. Mais la façon de communiquer, il nous faut le cœur de Dieu. Premier principe, la communication dans le couple va demander des efforts parce que nous sommes différents avec des besoins différents. Comprenez qu'il nous faut ce cœur de Dieu, il nous faut ce fruit de l'esprit pour pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est différent de nous. Qui n'a pas la même approche que nous, qui voit les choses différemment de nous. Comprenez ? C'est tout un art, mais il faut avoir conscience qu'on n'est pas pareil, on est différent. Mais si je suis en paix, si je sais qui je suis dans les bras de mon papa, je suis bien, eh bien, je ne crains pas la différence avec l'autre. Il ne va pas me mettre en danger parce qu'il est différent. Mais si je suis insécure, si je ne suis pas sûr de ce que je suis, si je suis orphelin, si je ne suis pas dans les bras de mon papa, quand on va s'affronter à propos d'un sujet, qu'on sera différent, il va falloir que j'ai raison. Il va falloir que je me batte pour prouver que j'ai raison. Parce que je vais perdre mes repères, là. Je vais perdre ma confiance en moi. Je vais tout perdre si je dis, ouais, mais ok, ben moi j'ai tort et t'as raison. Et si je ne suis pas en sécurité. Le couple va perdre. La communication, comprenez bien qu'elle va demander d'abord, avant tout, des efforts. Et on va voir pourquoi. Hein, on le connaît déjà, mais on va le voir en détail. Parce que nous sommes différents. Mais quand j'ai dit ça, bon, j'anticipe un peu. Quand j'ai dit ça, est-ce que je suis en train de dire, on est différents, mais ce que je pense, c'est quand même mieux. Tout va se jouer ici, tu vois. C'est de comprendre que nos différences sont complémentaires. Mais pas que ma façon de voir les choses est la meilleure. Et la tienne, bon, je la comprends un peu, mais franchement, elle est un niveau en dessous quand même. Ça serait rabaisser l'autre. Vous comprenez ? Non, la façon de voir de l'autre m'échappe peut-être, même dans l'importance, elle m'échappe peut-être, mais elle est aussi importante que la mienne. Et ça s'appelle, j'avais un mot pour ça, je vais te réveiller, un peu, l'humilité. L'humilité. Amen,
amen.
L'humilité.
Amen. J'aime bien comment tu as fait la tête de l'homme et la tête de la femme.
Regardez un peu, vous allez comprendre pourquoi dans une conversation, et même dans un cœur à cœur, c'est pas si évident que ça. Hein? Regardez là, la nature de l'homme, il réprime ses sentiments. il a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments. Il est tellement habitué à vivre dans sa grotte, hein, il sort de Cro-Magnon, les ancêtres sont loin, mais il sort de Cro-Magnon, il sort de sa grotte. Voyez, et dans la grotte, il n'exprime pas ses sentiments dans la grotte. Les femmes étaient en train de faire à manger. Hein, c'est un peu simpliste, mais ils étaient en train de communiquer, les femmes. Ils parlaient de ce qui se passe, des sentiments, tout ça. Ils parlaient, oui. Lui était dans sa grotte. Et quand il sortait de sa grotte, il allait chasser en solitaire, dans la forêt. Il n'a pas besoin d'exprimer ses sentiments. Donc, il a ce problème-là. Et jusqu'à maintenant, il réprime ses sentiments. La femme, c'est l'inverse. Elle exprime facilement ses sentiments. L'homme, parce qu'il est chasseur, il a un esprit compétitif. Il doit ramener le gibier. Donc, il a cet instinct-là. Il faut qu'il gagne. Il ne peut pas perdre. S'il perd, il ne ramène rien à la maison, il n'y a rien à manger. Oui, il a cet esprit de gagnant. Faut gagner. Tu vois. Et donc, dans les conversations, il risque d'avoir encore ce réflexe de « J'ai raison. J'ai raison. Je suis sorti de ma grotte. Je te parle, j'ai raison. » La femme, elle n'est pas dans la compétition. Elle coopère. Elle est dans la famille. Elle. C'est plus la famille. Elle va coopérer avec l'autre.
C'est quand même mieux. Hein.
L'homme, il est axé sur le travail. Le gars, il a toujours. Il bosse, quoi, tu vois. C'est lui qui ramène à manger à la maison. Donc aujourd'hui, on ne ramène plus du gibier, mais on ramène des pépettes. Sonnantes et trébuchantes. Il faut que le gars, il ramène de quoi faire bouillir la marmite. La femme, elle est plus sur la famille. Elle va plus développer la famille. Et c'est pour ça qu'elle va souvent se plaindre avec son mari et lui dire « Tu passes pas assez de temps avec nous, tu passes pas assez de temps avec moi, tu passes pas assez de temps avec les enfants. » Elle est famille, tu vois. Et lui, il est là. « Ouais, mais je suis d'accord, mais il y a le boulot. Il y a une marmite à faire bouillir. Hein » et, vous voyez, on n'est pas sur la même base. Il est plus à l'aise avec la pensée qu'avec les sentiments. Alors si je vous le dis autrement, il est plus à l'aise avec tout ce qui est rationalité et que l'émotion. L'émotion, il n'est pas à l'aise avec les émotions. Par contre, rationnel, oui. Attends, je vais t'expliquer. Ça se passe comme ça, et puis c'est comme ça. Là, c'est très rationnel. Tac, tac, tac. Tu vois ? Un point A. Point B, regarde, tu vois, je te trace une ligne, tac, tu fais ça et ça marche.
Et c'est tu mets au niveau.
Et la femme, elle, elle n'a pas été fabriquée comme ça, donc elle a dit, attends, je comprends pas chérie, il y a le point A qui est là, il y a le point B qui est là, oui mais alors tu vois, là, on peut faire comme ça, là, c'est intéressant d'aller voir là, là, on revient comme ça, puis après, oui, je suis d'accord avec toi, on revient là, et puis, tu vois, on finit au même endroit. Mais c'est trop long. Mais non, pourquoi c'est trop long? Mais non, mais tu peux aller de là. Ah là, ce sera beaucoup plus rapide.
C'est bien ça.
C'est bien ça.
Je le confirme
pour Bertrand. L'inverse, la femme est plus à l'aise avec les émotions. Elle raconte. Vous voyez, l'homme dit, la femme raconte. On va dire la même chose. Un homme va prendre 30 secondes. La femme va prendre, je suis gentil, 5 minutes. Et le gars, il est là. C'est un peu long ton affaire. Attends, j'ai pas fini de te raconter, j'ai pas fini. Et puis là, on raconte une histoire, on repart dans une autre histoire. Et tu parles de qui? Ah, mais t'écoutes pas, tu comprends pas, je te parle de l'autre. Mais d'accord, et on est perdu. Au bout de 2 minutes, on est perdu, on est qu'à la moitié. Il faut s'accrocher, parce que là, l'histoire n'est pas finie. On revient, et puis on revient là. Ah là, tu reviens là. Oui, mais oui, t'as pas suivi. Je t'avais dit ça tout à l'heure, mais maintenant on est là. Ah, oui, d'accord, on est là. Avec machin, machine. C'est qui machin, machine? Mais machin. Tu connais machin? Oui, machin, ok. Ouais. Ok. Il y a un moment, tu laisses faire. Tu comprends plus rien à la conversation. Parce que ça a pris tellement de virages. Mais bon, on est arrivé à bon port. Et enfin, l'homme est plus sexuel dans son approche de l'amour, la femme est plus romantique. C'est comme ça, ça a été fait comme ça. Hein. L'homme pense tout de suite la sexualité, pas la peine de perdre du temps. La femme dit, vas-y mollo, on peut pas faire un petit peu ça, ça. Ah, je suis pas trop là-dedans moi. Ouais mais chérie, moi j'aime bien un petit peu avant. Tu vois. Oui mais, pff, d'accord, mais perdre du temps quand même.
Ah bon ?
Bizarre ! Non, mais là, on est en généralité, on trouvera toujours des exceptions. Mais c'est comme ça, la réalité. Accepter l'idée que l'autre est différent, c'est prendre conscience qu'il ne pense pas comme moi et qu'il n'attend pas la même chose que moi. Vous voyez ? Pour une petite grippe, la femme, elle prend une petite tisane. Lui, il a déjà le SAMU. Petit bobo, mais j'ai dit, mais là tu prends ma place là, c'est moi d'habitude qui fais, oh je suis pas bien, j'ai mal, oh là là ça fait mal. Alors accepter l'idée que l'autre est différent, c'est le début. D'accord, ça veut dire quoi? Si on accepte que la femme est différente de l'homme, ça veut dire que on prend conscience, et oui ça commence comme ça, on prend conscience qu'il ne pense pas comme moi. Parce que des fois, on se fait taxer de je sais pas quoi parce qu'on ne pense pas comme l'autre. C'est vrai. On a l'impression qu'on est idiot ou je sais pas quoi parce qu'on ne pense pas pareil que l'autre. Et parce qu'on ne pense pas comme l'autre, on est moins bien que l'autre.
Ah non. Mais tu te fais taxer quand même.
Ah, ouais, la conversation, des fois, ça part les phrases, tu vois. Et puis... Et deuxième chose, il n'attend pas la même chose que moi. On a des attentes différentes. Ça paraît pas ça. C'est fondamental de comprendre ça. Admettre que l'autre est différent, c'est déjà s'efforcer de le comprendre et de se mettre à sa place. Il fait des efforts. Il essaye de se mettre à sa place. Bon, et là, on commence à voir les choses un peu différemment. On essaie de comprendre comment l'autre fonctionne. D'accord ? C'est déjà important, parce qu'on va peut-être être un peu moins agressif. On commence à comprendre qu'on est différent. On commence à se dire, mais l'autre ne fonctionne pas comme moi. Ok ? Donc, peut-être que... oui, il pourrait peut-être faire preuve de sensibilité, c'est possible. Parce que on peut changer, on peut être transformé par le Seigneur. Donc, on part de l'homme de Cro-Magnon, et puis on arrive à un homme accompli en Christ.
Amen.
Amen. Hein? Et là, tout change. Et oui, tout est possible. Elle aussi, elle peut avoir raison. C'est seulement lorsqu'une personne nous comprend qu'on se sent vraiment avec elle. Comprenez ? Si on commence à chercher à comprendre l'autre, à l'écouter, avoir de la patience, de la douceur, l'écouter, commence à dire, bon, peut-être que je vais comprendre ce qu'elle me dit. Communiquer ne nous rapproche pas seulement physiquement, mais émotionnellement. On commence à rentrer en empathie. Vous voyez ? Parce que je commence à me mettre à sa place, je l'écoute vraiment. Et là, je suis obligé de l'écouter parce qu'on est différent, parce qu'on ne pense pas pareil, parce qu'on n'attend pas les mêmes choses. Et bien, si je n'écoute pas, je ne saurai pas. Donc, j'écoute ma femme parce qu'elle elle va peut-être avoir une demande, une compréhension que moi, je vais dire, comment on pense comme ça ? Sérieux ? Comment c'est possible ? Ben oui, c'est tout un univers qui s'ouvre. Et c'est intéressant, parce qu'on ne meurt pas idiot. Il y a des choses qui existent qu'on ne sait pas. Et des fois, c'est l'univers de l'autre est vraiment intéressant, des fois. Parce que des fois, on vous dit...
Des fois,
Ouais, ouais, non, parce que des fois, bah, on comprend à peu près. Mais il y a des fois, tu écoutes l'autre et tu te dis, waouh.
Mais souvent.
J'aurais jamais pensé une interprétation comme ça.
Ah, voilà.
Tu vois?
Tu vois, alors que là, moi, c'est bon.
Bah oui, pour comprendre tout ça. Et puis, on ne juge plus, on ne juge pas. On n'est pas là pour juger en disant, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Comment tu peux penser comme ça? Ah, on s'est dit, ça, c'est une approche différente, je n'avais pas vu ça comme ça. Pas mal. Ouais. Ouais. En résumé, ce premier principe nous amène à prendre conscience que nous sommes différents. Pas meilleurs, mais pas pires. Pas exagérer. Et que nous avons besoin, chacun pour notre part, de faire des efforts pour comprendre l'autre afin de mettre en place une communication authentique. Vous voyez, déjà là, avec ce premier principe, on casse beaucoup de préjugés et on attaque les conversations d'une autre manière. Vous voyez, il y a de la douceur, il y a de la patience, il y a une recherche de comprendre l'autre. D'accord ? On est dans cette optique de construire notre couple sur une bonne base de communication, avec du cœur à cœur, et donc on établit des principes de base qui vont nous amener à pouvoir communiquer librement, sans crainte de se faire taxer de je sais pas quoi, tu vois, toujours diminuer, toujours avoir des réflexions désagréables. Non, on est différent.
Et complémentaire.
Amen. Amen. Un deuxième principe, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, une véritable écoute va favoriser la communication. Alors, je reviens dessus, parce que là, ce que vous allez voir, c'est que ce n'est vraiment pas quelque chose qui nous est habituel. Ce n'est pas de notre nature. Donc, il faut vraiment en prendre conscience. Ça va faire la différence dans la communication. Alors, on va voir. L'écoute fait une grande, grande, grande différence dans la communication. À la suite d'une véritable écoute. C'est-à-dire la personne qui se sent écoutée. Émotionnellement, qu'est-ce qu'elle ressent à partir du moment où elle s'est sentie écoutée par l'autre? Mais regardez, à la suite d'une véritable écoute, elle se sent valorisée.
C'est sûr.
Elle reprend confiance en elle. Parce que ce qu'elle dit est écouté par son mari. Ou, à l'inverse, ce que son mari dit a de l'importance pour sa femme. Donc forcément, tout de suite, là, ça nous met dans une position où on se sent valorisé, où il y a de la confiance qui renaît en nous. Parce que, on va le voir tout à l'heure, mais si vous commencez à parler et qu'au bout de 30 secondes, l'autre vous coupe la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous dites, ça, c'est pas intéressant, c'est pas, ça ne l'intéresse pas. Donc vous faites ça une fois, vous faites ça deux fois, vous faites ça trois fois, vous faites ça quatre fois, et au bout d'un moment, vous ne causez plus. Parce que vous dites, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ça ne sert à rien, ça je n'écoute pas. Et donc, au lieu de créer de l'intimité, vous allez créer un fossé. Vous comprenez? Donc, en me sentant écouté, je suis valorisé, je reprends confiance en moi, je sens que je compte, je me sens soutenu, et donc, évidemment, je me sens aimé. Allez, prenez conscience de l'importance de l'écoute. Parce qu'on est dans un monde où tout va vite et où on veut avoir raison et où on veut prendre la parole rapidement pour que l'autre comprenne nos arguments. On a une batterie d'arguments qui sont en arrière, là. Et quand je vais te les sortir, tu vas voir que tu vas dire, ben oui, effectivement, tu as raison. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Elle est différente. Tes arguments, ils sont compréhensibles par toi. Mais elle ne va pas forcément les comprendre. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, mais tu comprends rien. Je t'explique, c'est clair là ce que je t'explique. Et donc, tu vas développer ton truc. Et elle va dire, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Quoi, tu n'es pas d'accord? Mais c'est évident ce que je te dis. Mais tu es quand même de mauvaise foi. Parce que là, franchement, ce que je te dis, c'est... Tout le monde, demande à n'importe qui, tout le monde va te dire que j'ai raison. Ouais, quand la conversation va partir en live... Et puis, ça va aller crescendo. Et puis, ça va finir, de toute façon, tu ne comprends rien, de toute façon, t'es ici, de toute façon, t'es ça. Là, donc, l'effet contraire. Dévalorisation. Puis alors, là, ben, bonjour la soirée. Remonte la pente maintenant, parce que le couple a perdu. Zéro.
Oui.
Combien
de fois c'est le cas?
Souvent. Combien souvent? Oui, non, mais là, chrétien ou pas chrétien, c'est la logique humaine.
On est bien d'accord quand c'est la communication seule, c'est pas suffisant. Il faut y ait une vraie écoute,
oui,
et une compréhension, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre.
Oui.
Du moment que une des deux parties, enfin, si je veux parler comme ça, n'est pas du tout dans cette optique-là ou dans cette démarche-là, il n'y a plus de communication.
Ouais.
Là,
ah, on est d'accord. Non, mais c'est pour ça que depuis le début, on est clair que tout l'enseignement repose sur le couple chrétien. Les deux appartiennent à Christ. Les deux sont disciples de Christ. Les deux veulent changer, veulent être transformés.
Et les deux n'ont plus là. Des fois, devant la parole de Dieu,
oui,
il y a deux
interprétations.
Deux interprétations. Et là, ça devient
conflictuel.
Oui, compliqué. Parce que.
C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas, si tu veux, que l'un a raison, l'autre a tort. C'est pas le but du jeu, tu vois. Le but du jeu, c'est de parler avec l'Esprit de Dieu. Et puis, comme dit Paul dans la parole, si on n'est pas d'accord, Dieu nous éclairera. Il y a des sujets des fois où on peut avoir une interprétation, tu le vois comme... C'est pas grave. On peut ne pas être d'accord, mais est-ce que ça veut dire que pour autant on doit s'énerver, on doit se fâcher, on doit absolument avoir raison? C'est là que tout change, tu vois. Et on ne sera pas toujours d'accord puisqu'on est différent. Tu vois, c'est tout un art d'être dans une approche où on va tomber à peu près d'accord. Mais si on ne tombe pas d'accord, mais alors, c'est pas grave. Moi, je vais te dire, on est 7 milliards sur la Terre, heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. Parce que sinon, ça serait triste, la life. Tu vois? Non, c'est la différence qui nous rend complémentaires, tu vois, et qui fait qu'on grandit ensemble. Mais tu as raison, ton propos, il est intéressant, dans le sens qu'on est toujours sur la même base. Je me donne à toi, tu te donnes à moi. Je veux te donner le meilleur de moi, mais l'autre en même temps se donne le meilleur de soi. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, un va le faire pendant quelques temps, puis il va se lasser. Parce qu'il ne va pas trouver ça juste que lui fait des efforts, ou en tout cas, il est dans cette démarche de faire le meilleur pour l'autre, et que l'autre, c'est un gros égoïste, ou elle, et qu'elle ne pense qu'à elle. Ce n'est pas l'esprit du couple. L'esprit du couple, c'est je meurs à moi-même pour mon couple. Le couple, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'avait expliqué, c'est une belle personne, c'est une personne. Elle vit, elle a besoin de vivre. Et moi, je meurs pour mon couple. Je meurs pour Dieu, mais en même temps, le parallèle, c'est que dans mon couple, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et les deux. Et c'est là que tu as un couple extraordinaire, c'est là que tu te dis, waouh. C'est vrai que le couple vu comme ça, c'est extraordinaire. Mais combien le vivent vraiment? Tu vois? Faut être enseigné et il faut mettre en application. Et les deux, tu vois, c'est tout un challenge. Mais justement, tu vois, on se voit, on se fait une pause dans la semaine, on fait un cœur à cœur. Et ben, de semaine en semaine, on progresse. Le cœur à cœur, c'est pas une fois, on a fait un cœur à cœur, c'était génial. Et puis dans 10 ans, on en refera un autre. Non. À cœur, si tu veux que ça fonctionne, que ça porte du fruit, eh ben, c'est toutes les semaines. Et puis ça devient un plaisir. C'est pas une contrainte, c'est pas oh, ce soir le cœur à cœur. Si on pouvait être malade ce soir, un peu de temps, ça m'arrête. Non, le cœur à cœur, c'est un plaisir de dire chérie, on est bien ensemble, quoi. On continue de s'aimer, on continue d'être heureux de passer du temps ensemble. C'est du plaisir, le cœur à cœur. C'est pas une liste de courses, chérie, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Ça, tu fais un cœur à cœur, t'en fais pas deux. Alors, à l'inverse, regardez bien comment l'écoute est importante. Quand je ne suis pas écouté, regardez, ben je suis frustré. Mais oui, parce que je peux pas en placer une. De toute façon, il me laisse pas en placer une. Je suis frustré. Tu vois? J'ai l'impression que je compte pas. J'ai l'impression qu'on ne m'aime pas. Je me sens rejeté. Wow.
Ah,
vous voyez la puissance des mots, la puissance de la communication.
Et là, on rebascule sur le cœur orphelin.
Oui,
eh
oui. Tout à fait.
Voilà, ça fait
oui,
de...
tout à fait. Mais c'est surtout celui, celui qui t'empêche de parler qui est orphelin. Tu comprends? C'est surtout celui qui t'empêche de parler qui est orphelin. Pourquoi il a ce besoin de s'imposer autant? Tu comprends? S'il était dans le cœur de Dieu. Mais il aurait de la patience. il te laisserait parler, il dirait parle ma chérie, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le cœur, l'enfant qui est dans le cœur de Dieu, il a tout. Il a tout. C'est, il ne peut pas dire, ah oh, Seigneur, je suis avec toi, mais j'ai besoin d'avoir raison là dans ce domaine-là. Ah oh, là, tiens, je vais aller voir cette personne-là, j'ai besoin. C'est impossible. C'est la personne qui veut absolument avoir raison, qui veut absolument se sentir valorisée dans une conversation, vraiment de l'approbation dans une conversation, c'est le cœur orphelin. C'est le cœur qui cherche, à travers d'autres êtres humains, une façon d'exister. Il en est encore là, il a encore ces besoins-là. Tu vois ? Alors que le cœur qui est dans les bras de son papa, mais lui, ça lui semble puéril tout ça. Tu ne peux pas comparer. La personne qui a vraiment rencontré Dieu, la personne qui est dans les bras, qui a pris cette habitude de venir se blottir dans les bras de son papa, mais elle s'en fout. On ressent tellement d'amour avec le Père que franchement, mais avoir raison ici ou avoir... Mais c'est puéril. Tu comprends ? C'est le petit orphelin qui se bat pour avoir une petite victoire là avec un être humain, tu vois, avoir un peu d'approbation, avoir un peu de reconnaissance. Oh, j'ai fait ci, il n'y a personne qui m'applaudit, applaudissez-moi. Un peu d'amour, s'il vous plaît, un petit peu d'amour. Tu comprends? Mais quand tu es rassasié du cœur de Dieu, mais tu te rends compte, mais qu'est-ce que c'était ridicule. Je ne le savais pas. Et puis, je n'avais pas cette relation avec Dieu. Mais j'allais chercher auprès des hommes ce que j'avais besoin. Or, sans savoir que ce que j'avais besoin, c'est dans les bras de Dieu que je l'ai. Mais avec les hommes, ou avec les femmes, c'est un puits sans fond. C'est un crevassé. Tu comprends ? Rempli, mais ça ne change rien. Il y a un creux, c'est vide. Tu vois ? Tu gardes tes mécanismes, il n'y a rien qui change en réalité. Quand tu viens dans le cœur de Dieu, tu ressens cet amour-là pour toi. Tu dis, Seigneur, je suis aimé, j'ai tout avec toi, là. Tu vois ? Ben, franchement, tu peux être en paix avec tous les hommes qui ne pensent pas comme toi, c'est pas un problème, tu les acceptes comme ils sont, tu comprends ? Toi, tu es là pour donner cet amour que tu as reçu de Dieu, tu vois ? Tout part de là, tout part de ton intensité dans ta relation avec Dieu. La communication est facile si tu es rempli de l'amour de Dieu. Ça va ? C'est clair ? J'espère, parce que ça fait trois fois. L'écoute demande patience, empathie et beaucoup d'amour. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'écoute, c'est une preuve d'amour. Oui, l'écoute, c'est une preuve d'amour. C'est-à-dire que des fois, on dit aimer, c'est bien, mais les preuves, c'est mieux. Tu vois ? Et bien, tu as une belle preuve d'amour, c'est l'écoute. Parce que l'écoute, ça va nous demander de la patience. Ça va nous demander de l'empathie, c'est-à-dire que si c'est une vraie écoute, c'est pas je suis là, mais je suis en train de penser au match de foot, je suis en train de penser à ce soir, je suis en train de penser à ça. Et ouais, d'accord, ok. Bon, faut que j'y aille, excuse-moi, mais c'est okay. Ça, c'est pas la vraie écoute. La vraie écoute, c'est là, je suis pour toi. Je suis là pour toi, je me pose et je t'écoute. Et j'essaye de te comprendre, j'essaye de me mettre à ta place. Tu vois, c'est l'écoute. Et ça, c'est de l'amour. Écouter, c'est de l'amour. Parce que c'est du temps. Et on a toujours l'impression que nous, le temps. Oh, ben, pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ça. Ah, le temps, c'est tellement important que j'ai pas le temps de t'écouter. Parce que j'aurais voulu t'écouter, mais j'ai pas le temps de t'écouter. Ça. Nous appliquer à écouter ce que l'autre trouve intéressant, mais qui ne fait pas forcément partie de nos centres d'intérêt. Ouais. Ça, vous allez souvent le rencontrer dans le cœur à cœur, dans le fait d'être avec l'autre. On est différent. On n'attend pas les mêmes choses. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Et donc, l'amour en action, l'écoute, qui est une preuve d'amour, c'est d'écouter ce que l'autre a à dire, même si on ne trouve pas ça forcément intéressant.
Waouh, quel amour !
Oui, c'est de l'amour.
Parce que ça, c'est voilà. Conflit.
Oui. Ah ben, il faut le faire, ma chérie. Moi quand je t'écoute, quand j'écoutais Optique de Bourbon, franchement, j'étais en plein dans l'amour. Parce que moi, Optique de Bourbon, ce qui se passe là-bas entre filles, c'était pas mon trip. Hein. Mais bon, j'écoutais. Et je m'intéressais. Ah oui, parce que j'aurais pu écouter, puis dire bon, c'est fini. Non. Je m'intéressais. Et j'essayais de comprendre. C'est pas facile, c'est de comprendre. Donc, il s'est passé ça aujourd'hui avec Carmelita. Carmelita, elle a fait ça avec Lucinda. Lucinda est revenue vers toi. Alors, et là, qu'est-ce que t'as fait? Attends, mais non, t'as pas compris, t'as loupé, là. Il y avait ça. Ah oui, il y avait ça. Voilà. Attends, je recommence. Là, non. Et là, il s'est passé ça. Et là, l'après-midi, ah oui, d'accord. Oh là, et comment t'as réagi? Ah ben, j'ai réagi comme ça. Ah, d'accord. Là. Un petit exemple.
Merci beaucoup d'amour.
Hein, épuisé.
Non, t'es pas épuisé. Tu es pas épuisé. Tu essayes de comprendre. T'essayes de comprendre comment fonctionnent les gens. Voilà. Comment c'est devenu intéressant. Comment ça a pris de l'importance. Comment tout ça. Tu te dis ouais, comment, mais c'est pas mal. C'est quand même intéressant.
Ah, Alain,
tu le prends vachement bien.
Alain, je confesse que la Irlande est transformée.
Amen. C'est ce que je. Là, je remarque la réaction qu'elle a eue.
Amen.
Il y a un temps normal. C'est ça me fait penser que quand je travaille, je travaille. Personne, on va dire planter un clou, on prend une semaine avant, tu vois. Et on dit là, toi, tu es là. Et tu écoutes, ça
ne
finit jamais.
Ah oui, oui. Ah mais il y a des gens, franchement, tu
es obligé de, à un moment donné, tu dis, ben,
ouais, mais
tu peux plus écouter. C'est
franchement, il y a des gens, tu sais, mais c'est comme ça, Alain. Alors, tu vois, bon, je fais une parenthèse. On a tous des défauts. On est d'accord. Non, écoute. On a tous des défauts. Donc, moi, j'ai les miens, mais je les supporte bien. Donc, l'autre, la personne qui vient te voir, elle a ses défauts. Et peut-être que là, ils sont plus durs à supporter parce que c'est pas les gars. Et là, il y a certaines personnes, quand tu vois la personne arriver, tu fais « Oh là là !» Bon, prépare-toi. Là, c'est tout ce que tu dis. Tu dis « Seigneur, t'es en train de me mettre au défi de la patience. T'es en train de dire oh, « je vais voir où j'en suis avec la patience. » Mais si. C'est de la patience. Ouais. Et là, c'est là que tu dis au bout d'un moment, parce que tu faut quand même que tu sois gentil. Tu laisses un peu de temps. Puis après, c'est là que tu dis, sœur, excuse-moi, mais il faut quand même que je prenne le clou.
J'ai passé le meilleur de temps.
Hein, mais c'est incroyable, l'être humain, tu sais, comment.
C'est pas méchant.
Mais non, de toute façon, on ne dit pas de nous, rien. Bon, mais de toute façon, c'est extraordinaire comment l'être humain est doué pour voir tout ce qui ne va pas chez l'autre. Écoute, Pépé, c'est incroyable. Parce que l'être humain, il est doué pour voir tout ce qui ne va pas chez l'autre et qu'il a beaucoup de mal à voir ce qu'il a chez lui.
En fait, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a deux options. Soit la personne dit « ouais » et puis je me sauve, ou alors j'affronte.
Oui.
Et en fait, c'est là où on travaille sur soi.
Et on travaille sur soi. C'est ça. Exactement. En fait, quand tu rentres dans cette dynamique de relation les uns avec les autres, tu vois, ce que dit Alain là, tu vois, tu as toujours deux façons de voir. C'est-à-dire, c'est où tu te dis, oh là là, non, j'ai pas envie, alors là, tu fais tout pour fuir, ou tu te dis, tiens, je vais regarder un petit peu où j'en suis.
Et moi, je fuis pas, je peux pas fuir.
Parce que non, mais toi, t'avais le couteau, t'avais le clou dans les mains. Non, mais là, on généralise, tu comprends, là, c'est toujours comme ça. Et donc, avec ta femme, c'est différent, parce que tu ne peux pas l'éviter. Donc, avec ta femme, tu es obligé de prendre l'option. Là, ben, je vais voir où l'on. Et c'est comme ça que tu grandis, en fait. Ouais. C'est pas en cherchant à la changer, pas en changeant, en cherchant à la transformer, parce que ça ne marche pas, mais en disant où j'en suis, moi. Tu vois, bon, je reprends l'exemple des petits de bonbons, si tu veux. Oui, au début. Oui, non, mais c'est pour comprendre, parce que sinon, si on repart dans une autre anecdote, ça va prendre plus de temps. Donc, au début, c'est 5 minutes. Tu vois, au bout de 5 minutes, tu dis, franchement, je ne peux plus. Puis après, tu vois, tu tiens 10 minutes. Tu dis, waouh, c'est pas mal. Puis, à un moment, un jour, tu te dis, mais ça fait 15 minutes, je suis toujours attentionné dans le truc. Je vais finir par aimer ça. Tu vois, en fait, tu progresses comme ça. Tu vois où t'en es. Tu dis, t'es bien, tu développes la patience.
Là, il y a 3 quarts d'heure.
Ah bah oui, non, mais là, il y a des records. Mais Mais tu vois, après, j'avais des récompenses. Des fois, là, j'arrivais à tenir jusqu'au bout. Et ma femme disait, oh ma chérie, tu m'as écouté, tout c'est extraordinaire. Oh là là, ça m'a fait du bien, tu sais. Ah, mais ça y est, j'ai fini. Tu peux regarder ton film. Hop, elle est partie. Ah non, non, là. Non, non, parce que tu sais, il y avait Canal+, et puis j'avais mis le replay, là, tu vois, le replay. Ah oui, parce que bah, je voulais pas tout perdre. Donc, tu veux, je mettais stop, tu vois. Et puis, toc, mais tu te rends compte, mais ça, on se rend pas compte. J'avais un sacré combat. Là, j'avais gagné un sacré combat. Quand elle repartait. Alors, ça, tu sais ce que ça représente? C'est le dressing. Et ça, c'est autre chose, c'est les femmes, tu sais, dans la bagnole, il y a le dressing. Il y a les fringues, il y a les chaussures, tu vois. Et quand elle sortait de la voiture, elle prenait les fringues, les chaussures, avec le truc. C'est pour ça qu'elle était comme ça. Tu vois. Puis elle arrivait, mais elle n'avait pas le temps de déposer les affaires. Il fallait qu'elle me parle tout de suite, c'était tellement urgent. Et c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant de comprendre comment l'autre fonctionne. Parce que toi, tu la regardes, tu comprends pas. Toi, tu es rationnel, tu dis, bon, pose tes chaussures, pose ton truc, puis viens, on va parler tranquillement. Et quand tu la vois débarquer avec son dressing comme ça, chérie, il faut que je te parle. Tu regardes ? Mais chérie, prends le temps de déposer tes affaires. Non, 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 attends, c'est 5 minutes. Chargé, comme ça, chargé. Au bout de 20 minutes, elle est toujours chargée comme ça. Et elle te parle toujours. Mais c'est extraordinaire.
Heureusement
mais...
que je t'aime, toi.
Non, mais chérie, c'est vrai ce que je te dis, c'est vrai. C'est des exemples, mais c'est marrant les exemples. Franchement.
Ça te fait pleurer encore depuis tant
d'années. Mais oui, parce que pour moi c'est extraordinaire de comprendre tout ça, de dire mais comment tu fais pour rester avec ton dressing comme ça.
Trois vendredis que ça a dur
monté. Ah non, mais tout le monde n'était pas là. Et ça s'appelle la patience.
Il a dit ça s'appelle la patience.
Alors, on continue.
Dieu a dit,
et parce que là, le temps passe.
Oh la vache, je suis mariée avec toi pour que j'apprenne la patience.
Allez, petit cœur, on avance.
On avance.
On avance.
Mais chérie, arrête de parler de...
Oui, oui, on avance. Alors, quelques mauvaises habitudes à perdre. Ok, on va être très pratique. Quelques mauvaises habitudes à perdre. Le rassureur, ça c'est des mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes en nous et on n'en a pas conscience. Donc ce soir, c'est juste pour les faire amener à la lumière. Tu vois. Donc, évitons... Le mécanisme du rassureur. Il ne laisse pas l'autre exprimer ses émotions. Le rassureur est sur un mode rationnel. D'accord ? Faisant une complète abstraction des émotions de son conjoint, entraînant une frustration chez l'autre qui se sent incompris. Alors c'est quoi ? Il y a un problème. La femme vient et elle explique son problème. Tu vois ? Mais très rapidement, parce que comme elle a un problème, elle explique toutes les émotions qui vont avec le problème. Tu vois ? Mais le gars, il dit, mais c'est simple. Tu fais comme ci, comme ça et comme ça, et le problème est réglé. Et la femme, elle reste avec ses émotions. Il a fait, mais attends, c'est pas fini. Mais si, fais ça, c'est clair et net. Et tu vois, et ça marche. Non, mais j'étais pas bien, moi, tu comprends. Non. Tu dois accompagner ta femme. Oui, même si tu as la solution, parce que toi, tu vas non, fais comme chérie, écoute-moi, je te dis, fais comme ci, comme ça, comme je connais, moi, ça, je connais par cœur. Tu vois ? Non, là, tu dis, ah, d'accord, chérie. Donc, tu t'es senti mal à ce moment-là. Oui, c'est ça, j'étais pas bien. D'accord, et tu as fait quoi ? Mais j'ai fait comme ci. Tu vois ? Il faut que tu accompagnes. Et oui, patience, l'écoute, accompagne ta femme. Dis pas tout de suite, c'est ça le rassureur. Écoute, ça va être vite réglé. Écoute-moi. C'est comme ça. Et je t'ai sûr que t'es plus embêté. Rassureur. Il y en a beaucoup qui font comme ça. Ensuite, donneur de conseils. Ah, ça c'est pas mal aussi celui-là. Alors que le conjoint exprime ce qu'il ressent, l'autre intervient avec des solutions toutes faites, comme voilà ce que tu devrais faire si j'étais toi. Voilà ce que je ferais. Mais il a toujours les bons conseils. Donc, il intervient et direct, il te trouve la solution. Détourneur de situation. Alors ça, c'est pas mal aussi. Et on va s'y reconnaître aussi. Là. Détourneur de situation. Le conjoint est en train de raconter ce qu'il a vécu. Et c'est pas facile pour lui de trouver les mots. Tu vois ? Ça, c'est souvent le gars. Tu vois, le gars, il raconte une solution, il raconte un problème. Il n'est pas tellement habitué à raconter ses problèmes. D'habitude, il règle ça tout seul. Donc là, il fait un effort, il raconte, mais il n'arrive pas forcément à mettre des mots sur les émotions. Tu vois, donc on en est là. Donc, c'est pas facile pour lui de trouver des mots. Et alors, au moment où il cherche le mot, il y a un silence. L'autre, paf, elle lui coupe la priorité, direct. Et l'autre, et elle se met à raconter une histoire de cinéma. Elle dit, ah, ce que tu me dis là, ça me rappelle un truc, ça m'est arrivé aussi, figure-toi. Tu vois, et dès toute la conversation à son profit, sans laisser l'occasion de terminer. La conversation est prise. Ouais, bah tu sais, moi ça m'est arrivé la même chose aujourd'hui, attends, je vais te terminer. Tu sais comment ça s'est terminé, toi? Et là, tu m'en rends compte, hein? T'as pas fini la conversation. Il dit, ouais, bon. Toutes ces mauvaises habitudes conduisent au découragement et à la frustration. De telles réactions gênent celui qui s'efforce d'exprimer son vécu. Il commence à se renfermer et à penser, à quoi bon essayer de discuter? Ça sert à rien, de toute façon, il ne m'écoute pas. Donc il y a des spécialistes de piqueurs de paroles. Dès qu'il y a un trou, paf, je m'engage dedans. Par contre, il y a quelques bonnes habitudes à prendre. Métamorphoo, soyons transformés. Exprimons nos sentiments. Liez véritablement notre cœur à l'autre. Se rendre vulnérable à l'autre. Abandonner les mécanismes de survie, autosuffisance, ne pas être redevable. Les bons principes qu'on a besoin de demander à Dieu, arrêter avec nos mécanismes de survie autosuffisants. Je me suffis à moi-même. Là, tu ne créeras rien du tout avec l'autre. Impossible de lier ton cœur avec l'autre. Tu es trop dans un mécanisme de survie. Et souvent, ces gens-là, leur principe, je ne dois rien à personne. Là, ils l'ont entendu de leur papa, de l'arrière-papa, l'ancêtre de je ne sais pas quelle année, tu vois, qui a dit, hé mon gars, je te dis un truc là. Ne dois rien à personne dans ta vie. Tu comptes sur toi et tu ne dois rien à personne dans ta vie. Et c'est resté gravé quelque part et tu l'as eu en héritage. Et tu as dit, hop, je ne dois rien à personne. Toi, tu vois, ah, c'est ton anniversaire, on va te faire un petit cadeau. Ah non, pas de cadeau. Pas de cadeau. Moi, ça va très bien, mon Dieu. Non.
Pas de cadeau.
Moi, je ne veux rien. J'ai rien besoin. Tiens, on va penser à toi, on va faire quelque chose pour toi. Ah non, moi ça va bien. Non. Autosuffisant. J'aurai la voix. Me mettez pas mal à l'aise. Moi je dépends de personne. Tout seul. Dans mon coin. Non. En pratique, accorder toute notre attention à notre conjoint, on le laisse parler sans l'interrompre. Hein, c'est important de poser ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est des fois, c'est compliqué. C'est là où il y a une sorte de... On meurt à soi-même. Parce que la femme, il faut la sentir dans ses émotions. Quand elle a besoin de parler, des fois, c'est tout de suite. Comment ? Mais tout de suite, c'est tout de suite. Tu vois ? Donc le gars, s'il est en train de faire quelque chose et qu'il n'a pas fini, ça va être très, très compliqué. Tu vois ? Ça va être... J'arrive ! Je finis ce que je fais ! Et la femme, c'est tout de suite qu'elle a besoin de parler parce qu'elle est en souffrance, tu vois, émotionnellement. Là, il faut que tu lâches. Tu vas voir comment ça va te coûter. Tu vas voir comment ça va être dur. Il faut que tu lâches. Tu lâches ce que tu es en train de faire. Tu lâches ce que tu as programmé dans ta tête. Là, il me reste une heure. J'ai le temps de faire ci, j'ai le temps de faire ça. Dans une heure, je finis ça. Certain pour ce soir, je suis arrivé là. La femme arrive. Elle dit, chérie, j'ai besoin de toi. Attends, je suis occupé. Non mais viens, il n'y en a pas pour longtemps. Non mais, tu comprends pas. Je dois finir ça, sinon je ne fais pas être bien, je t'assure. Chérie, mais c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Oh. Je dois lâcher. Ben oui, c'est facile pour une femme, c'est difficile pour un mec. Le mec, il essaie de tout programmer, tout était bien calé dans sa tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est calé, tac.
Il y a la bouteille de gaz à mettre.
Mais chérie, ça peut attendre. Non, c'est tout de suite que j'ai besoin. Oh, c'est maintenant. Voilà un exemple. Ouais. Essayez de vous mettre à la place de votre conjoint et de le comprendre. N'oubliez pas, il est différent. Il est différent de vous. Il ne pense pas comme vous. Il n'a pas les mêmes besoins, pas les mêmes attentes. Il faut essayer de le comprendre. S'assurer que vous avez bien compris les propos de votre conjoint en lui répétant ce que vous venez d'entendre. Ça ne suffit pas d'écouter. Écoutez bien, ça ne suffit pas d'écouter. Alors déjà, écouter, c'était déjà un effort. Là, je vous en demande un deuxième. Ça ne suffit pas. Répétez à un certain moment de la conversation ce que vous avez compris. Pourquoi ? Parce que si ça se trouve, vous croyez comprendre quelque chose et vous ne comprenez pas. Là, tu vas bien comprendre sur le mot, tu vois. Là, la personne, elle fait une pause et là, vous dites, attends chérie, donc ce que tu es en train de me dire, c'est ça, ça et ça. Oui, c'est ça, tu as compris. On peut continuer. Parce que des fois, ça va être, chérie, donc ce que tu es en train de me dire, ce que c'est, et au bout d'un moment, on ne se rend pas compte, mais on ne sait plus si on est dans le même chemin que tous les deux, quoi, tu vois. Donc, on peut lui dire, donc chérie, ce que tu m'as dit là, donc c'est, ça y est, c'est passé ça, et ça, et ça. Mais non, t'as rien compris. Ah, attends, ben, on recommence. Oh là 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 là, mais t'écoutes pas ce que je dis ou quoi? Tu vois? Non, faut pas descendre l'autre. C'est que dans les mots et tout ça, on ne s'est pas compris. C'est pour ça qu'il faut se répéter les mêmes choses. Parce que sinon, vous allez arriver à des quiproquos. Des quiproquos du style, mais je te l'ai dit ça. Et l'autre va dire, mais non, tu ne me l'as jamais dit. Mais tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je t'en ai parlé, je te l'ai dit ça. On était ensemble, je te l'ai dit. Ben non, moi je m'en souviendrai. Si tu me l'avais dit, je m'en souviendrai. Quand même, je suis pas fou quand même. Là, ça va partir comme ça. Et tout ça, parce que vous n'avez pas su reverbaliser pour être sûr que vous avez bien compris, étant donné que vous n'avez pas conscience que vous êtes différent, que vous parlez différemment et que vous n'avez pas les mêmes références. En communication, ça s'appelle le référencement. On n'a pas le même référencement. Donc, il faut de faire une petite pause de temps en temps. Et puis au moins, ça montre à la personne que tu es bien là en train de l'écouter. Tu vois? Parce qu'il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes. Les spécialistes, c'est ceux qui te regardent, tu vois. Tu crois qu'ils sont avec toi, ils ne sont pas avec toi. Mais ça, les spécialistes. Cause toujours, tu t'intéresses. Réfléchir ensemble à une solution. Alors, là aussi, il y aura peut-être une solution à apporter. Ce qui veut dire... écoutons nos idées. Pas de choses toutes faites. Tu vois, on écoute. Parce que l'autre, figure-toi, peut avoir des bonnes idées aussi. Ça peut arriver. Donc, on écoute. Moi, voilà ce que je pense. Toi, qu'est-ce que tu penses? Et c'est pas... bon, ben moi, je sais ce qu'il faut faire. Regarde, on va faire comme ci, comme ça, comme ça. Et l'autre, et moi... Non, c'est moi qui ai les bonnes idées. OK? Le développement de notre communication... et de notre intimité, il n'y a pas plus puissant que de prier l'un avec l'autre. Ça, on est dans le cadre de développer, évidemment, notre communication, mais plus que ça, notre intimité. Et vous allez voir que pour un gars qui est habitué à être dans sa grotte, comment ça va le faire sortir de sa grotte? Prier ensemble, attention, c'est pas fini, à haute voix, sur une base régulière. Priez ensemble, à haute voix, sur une base régulière, pour les besoins de l'autre. D'accord ?
Mais pas faire une triangulaire.
Vous allez voir que c'est hyper puissant. Pourquoi ? Parce que si je commence à prier pour les besoins de l'autre, ça veut dire que l'autre s'est ouvert à moi pour me dire ses besoins. Il a des besoins. Incroyable. Il a des besoins. Je croyais qu'il n'avait pas de besoins. Je croyais qu'il n'était pas normal, le gars. Il a des besoins, donc on prie pour ses besoins. Il y a une grande différence entre prier pour quelqu'un, pour quelque chose, et prier avec quelqu'un. Et ouais, parce qu'en termes d'intimité, ça n'a rien à voir. En termes d'intimité, je me rends vulnérable. Je prie à haute voix avec l'autre à côté de moi, pour ses besoins. Très puissant, c'est très très puissant. Prier avec son conjoint pour les besoins de chacun est le facteur le plus impactant pour développer l'intimité entre conjoints et fortifier le couple. Ça, ce que vous entendez ce soir, c'est fondamental. Prier ensemble, à haute voix, pour les besoins de l'autre. Chérie, tu veux qu'on prie pourquoi? Quels sont tes besoins? Alors, écoutez ça, parce que vous allez voir ce que je dis là, comment c'est puissant. Écoutez ça. Une étude américaine a montré que le taux de divorce est en train de dépasser les 50%. Le taux de divorce chez les chrétiens est de 40%. Mais, regardez bien, pour les couples qui prient ensemble, qu'on vient de voir, le taux chute à 1%. C'est à peine croyable. De 40%, on passe à 1% pour les couples qui prient ensemble à haute voix pour les besoins de l'autre. Extraordinaire. Les couples qui prient ensemble restent ensemble.
Amen.
Amen. Alors, quelques conseils pour prendre de bonnes habitudes. 1. Des prières courtes et hésitantes sont mieux que des prières longues et éloquentes. On n'est pas là pour. On n'est pas en train de faire une pièce de théâtre. On n'est pas en train d'épater l'autre ou Dieu, je ne sais pas qui. On est nous-mêmes. D'accord ? Prier avec quelqu'un, ce n'est pas lui lancer des messages. Hein ? Seigneur, fais en sorte que Alain, il change un peu de comportement avec moi. Amen. Demandez à l'autre de prier pour des choses spécifiques, des choses bien précises. Si ma femme me demande pourquoi je veux qu'elle prie, je vais devoir ouvrir mon cœur et dans cette relation de prière, on va développer notre intimité. Amen. Et enfin, la prière est toujours tridirectionnelle. On s'adresse à notre conjoint, mais on s'adresse aussi à Dieu en toute transparence. Amen. Le Dieu des miracles est toujours avec nous quand nous prions ensemble.
Amen.
Amen. Une bonne communication va vous permettre de développer votre intimité et ainsi de permettre à votre couple de prendre le chemin de l'épanouissement. Amen. Ce soir, prenez des bonnes résolutions dans votre cœur.
Amen.
Faites des bons choix ce soir.
Amen.
Et vous allez voir comment votre couple va être transformé. Amen. Vous allez gagner en intimité. Vous allez savoir vous parler. Vous allez prendre du plaisir à vous parler et à être ensemble. Ça change la vie d'un couple. Amen.
Amen.
Une bonne communication, c'est de la patience, de la douceur, de l'écoute.
De la maîtrise de soi.
Une bonne communication, c'est comprendre qu'on est différent pour des besoins différents.
Amen.
Une bonne communication, c'est quitter nos mauvaises habitudes, prendre de bonnes habitudes, surtout prier ensemble l'un pour l'autre. Amen.
Amen,
amen, amen, amen,
amen.
Alléluia! On applaudit le Seigneur qui change nos couples et qui va transformer nos couples.
Amen,
amen, amen, amen! On va gagner en intimité, on va gagner dans cette façon de se comprendre, on va arrêter de s'invectiver, on va arrêter de se diminuer, on va arrêter de se dévaloriser. Et au contraire, on va écouter les besoins de l'autre et on va chercher à répondre aux besoins de l'autre. Amen.
Amen.
C'est pas bon la vie des couples.
Et soyons pas frustrés si l'autre comprend pas aussi et que t'as beau faire tout ça et l'autre ne fait pas.
Non, il faut faire les deux. Il faut
que
les deux fassent. Parce que sinon ça marchera pas. Et moi je prie pour que les couples soient encore mieux changés, transformés.
Amen.
Mais je sais qu'il faut être deux. Ça malheureusement, hein, sans nous pas deux, on peut pas faire. Hein. C'est compliqué.
Je félicite l'effort. Parce qu'ils ont fait du cœur.
Ils ont témoigné.
Ah, mais je n'étais pas là.
Mais oui.
Et c'est l'anniversaire, c'était hier l'anniversaire.
Il a témoigné.
Ah, oui. Oh, j'étais pas là.
Ah, ben oui.
Bon, ouais. Bah, j'ai eu tort.
Amen. Amen. Ça donne envie d'aller plus loin.
Amen.
Hein, ça donne envie de dire, t'es un couple quand même, c'est quelque chose. Hein.
C'est,
c'est
beau.
C'est la chose la plus magnifique que l'on va vivre sur cette terre dans notre relation avec un être humain.
Je pense que même dans toutes les églises,
et par la grâce de Dieu, ça le sera. Amen. Mais déjà, pour nous qui sommes là, mettons-le en place, voyons ce que Dieu a prévu pour nous. Et que nos couples soient des témoignages pour nos enfants. Que nos couples voient qu'on ne fait pas seulement que parler, mais on agit aussi et on donne envie. Parce que ça n'existe pas dans le monde. Cet amour-là, cette façon d'être ensemble, cette façon de se parler, cette intimité, tu vois, ça n'existe pas dans le monde. Oui, bien sûr, c'est la colocation. C'est ça. Et là, on se bat pour que notre couple ne tombe pas en colocation. Que notre couple soit amoureux.
Amen.
Que s'il a perdu de l'intimité, on regagne de l'intimité. Il n'y a rien qui est perdu. S'il reste 20 ans, que ce soit les 20 plus belles années de notre mariage.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia.
Mais moi, j'ai remarqué un truc, c'est que tout ce que Dieu a fait parfaitement, hein, entre le couple Jean-Élève, et que finalement, l'ennemi de notre âme, en fait, ben, il vient là mettre tout à l'envers.
Bien sûr, mais il n'a pas fini, il continue.
Tout à l'envers. Et même aujourd'hui, je remarque qu'il y a des sœurs qui prennent des responsabilités qui devraient être, ben, j'aime pas trop renfermer, hein, mais voilà. Qui prend les rênes, inversement, voilà, et perte de responsabilité de chacun. Et perte de respect de chacun.
Ouais, mais ça marche pas, après, ça marche pas dans leur couple après. Tu vois, si tu respectes pas le plan de Dieu, ben, tu sais, le mariage, c'est Dieu qui l'a créé.
Et là, on a un saboteur, tu vois, c'est bien.
Oui, bien sûr. Et des fois, on lui file un coup. Et des fois, on lui file un coup de main. Bien, on rend grâce à Dieu et on réfléchit à tout ça et on avance. Hein, on avance et que nos couples soient transformés par la grâce de Dieu.
Amen, amen.